Frankenfurter, la salle circulaire, l'escalier en spirale, le grand aquarium où les créatures sont immergées pour les touches finales, tout y est. Même esprit ridicule, excessif, délicieusement B-movie. Bref, j'ai aimé Flesh for Frankenstein. Est-ce que je le reverrai un jour? Honnêtement, je ne sais pas. Si je devais le comparer au Frankenstein de Guillermo del Toro, je dirais que le seul vrai lien entre les deux, c'est Mia Goth. Elle ressemble énormément à Monique Van Vooren, qui joue la baronne Catherine dans FPR, même sourcil ultra fin, presque invisible. Et puis bon, Jacob Elordi est quand même un peu sexy, et les acteurs de Flesh for Frankenstein aussi. Voilà, voilà.
Merci Anthony.
Oui, merci
sexy
Anthony.
Rappelez-vous, yeah. Anthony, c'est lui qui nous racontait l'anecdote comme quoi un jour d'Halloween, c'était son père ou son voisin qui avait mis des films horribles.
Non, c'est pas ça. C'était des films projetés en grand écran pour tous les voisins,
oui.
Sauf qu'il y avait une scène de sexe.
Ah oui.
Et donc tous les enfants venaient réclamer des bonbons et t'avais le truc qui voilà. En fond.
Donc son père était allé précipitamment dans la maison changer le programme et mettre autre chose. Et donc moi j'ai vu aussi cette version là, j'ai lu des trucs après. En fait apparemment il y a eu une co-réalisation, donc c'est signé Paul Morisset, mais on a ajouté un nom à la co-réalisation, donc de Paul Margheriti, qui en fait n'a pas du tout contribué au film, mais il a été mentionné au générique pour officialiser le statut de production italienne dans l'espoir d'éviter des fiscalités.
Oh là là. Les magouilles, quoi.
Les roublards, ça pour des cicatrices en pâte à modeler.
Ouais, donc voilà, exactement. Ça a pas fonctionné. Et voilà, ça s'est terminé par une grosse amende. C'est le côté un peu hors les murs. Mais sinon, ouais, dans le film, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cul.
Ça a l'air d'être récurrent, là, sur trois films.
Donc, il crée à la fois un mec et une meuf dans le film. En fait, voilà, il y a des scènes de cul parce qu'il y a clairement la châtelaine qui fait de son homme à tout faire son esclave sexuel. Mais tout le monde est tout le temps aussi à poil dans le film. Et apparemment, c'est le but du film, quoi. Et surtout, il y a une scène qui est vraiment trop malaisante. C'est assez gore. En fait, il y a la créature de la fiancée qui est encore inanimée, et pour lui donner vie, apparemment, il faudrait aller saisir son cœur. Donc, il ouvre la cicatrice.
Oh.
Et en gros, en même temps, il en profite pour la violer, quoi.
Ah, oh, oui, bah, du coup, c'est ce qu'il disait.
Ouais. Voilà.
Oh,
il y a d'autres trucs un peu gore, d'autres trucs dégueux, avec des intestins qui pendouillent et tout ça. Et dernière fun fact, c'est que le film aurait été réalisé en 3D, quand même, en 73, c'est quelque chose. Apparemment, pour en apprécier le relief.
Wow. Et en odorama.
L'argument de gros porc, quoi. Mets une deuxième caméra.
Ouais, c'est dégueulasse. Mais apparemment, la version la plus exploitée aurait été plutôt la version en 2D.
Déjà vu, right?
Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Dracula. Avant la version de Guillermo del Toro, il y a eu une tentative de créer, on en a parlé plusieurs fois dans l'épisode, une sorte de cinématique universe, le Dark Universe avec les monstres très iconiques de la Hammer. Donc,
en fait, depuis les années 30, ils essayent de relancer
C'est ça. Et en fait, visiblement, à chaque fois, c'est un échec. Et là, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont un peu trop vendu d'avance tout ce qui allait se passer. Ça avait commencé avec le film La Momie. Enfin, le nouveau film La Momie, donc pas celui avec Brendan Fraser, mais avec Tom Cruise, que vous avez peut-être pas vu parce que ça a floppé.
Il faisait des cascades.
Oui, notamment
une saute dans le sable.
Ouais, c'est ça, d'un avion, tout ça. Et en fait, ils ont, en fait, très clairement à cette époque-là, ils ont voulu faire comme le Marvel Cinematic Universe. Donc dans le film, ils ont déjà introduit le personnage de Dr. Jekyll, je crois. Et en gros, ils avaient carrément fait une photo. Alors c'est assez culte hein, dans les ratés d'Hollywood. Ils avaient fait un logo Dark Universe, tout ça.
Ouais.
Ils avaient fait une photo avec un panel d'acteurs. Donc pour tous les acteurs qui allaient jouer, donc probablement pour les 10-15 prochaines années, donc un Dracula, un...
Il y avait Johnny Depp.
Il y avait Johnny Depp.
Je vois bien Benicio del Toro en loup-garou.
Il y a eu un... Parce que du coup, à côté de ça, les films ont été repris.
Je vais regarder.
Il y avait aussi, je crois, Angelina Jolie pour faire la fiancée. Enfin, en gros, ils avaient vraiment annoncé ça à grande pompe, sauf que ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que le premier film allait flopper. Et donc, il y a eu des films, mais qui n'étaient pas liés. C'est pour ça qu'on a à nouveau le droit à Frankenstein. C'est pour ça qu'il y a eu un loup-garou.
L'homme invisible, il était bien.
Également. C'est pour ça qu'il y a aussi The Bride qui est sorti.
Oui, il y avait Javier Bardem.
Pas mal. Ouais.
Et donc en fait, tous ces films-là se sont faits, mais sans toute la connexion voulue.
Mais tu avais parlé aussi de Dracula Untold. Est-ce que ça faisait partie de ce truc?
Ben, je l'ai vu, je crois que ça correspond à cette époque-là, qui était vraiment nul, quoi. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait où t'as des mecs en costard dans les studios qui se sont dit « Allez, c'est les futurs Avengers. De toute façon, on a les droits pour tout. Tout le monde adore le monstre, là, la con. » Et en fait, ils ont oublié qu'il fallait faire un bon film, quand même, pour faire un univers.
Ils auraient dû persévérer, parce que Marvel, t'as pas eu que des bijoux.
Bah, c'est ça. Bah, après, Marvel, ils ont commencé bien avec Iron Man.
Oui,
mais,
oui.
Mais en fait, ouais, ils ont vendu la peau de l'ours. Voilà.
Oui, alors que le mieux de crossover comme ça, c'est la Ligue des Gentlemen. Extraordinaire.
Merci.
En bande dessinée.
Oui. Mais ouais. Alors, moi, c'est un plaisir coupable enfant. Parce qu'il y avait des trucs très sympas, mais bon, je pourrais faire un épisode entier là-dessus.
Je crois que c'est le premier film que j'ai vu tout seul au ciné, celui-là d'ailleurs.
Oh, pas mal. Tu sais, alors, moi, c'était quoi? Resident Evil. C'est à peu près à la même époque.
Bonne ambiance.
Bah moi c'était Crossroads avec Britney Spears.
Moi aussi. Il y a aussi Van Helsing, où t'as du coup Dracula, t'as Frankenstein, enfin le monstre, et même Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans l'intro à Paris. Ouais.
Bah bientôt la suite, bientôt le revival Dark Universe 2036.
C'est pour ça qu'il y a toujours ce truc un peu étrange où on va parler dans un futur épisode de The Bride, donc qui est la fiancée de Frankenstein. Donc vu qu'il y a Frankenstein qui est sorti, tout le monde va dire ah c'est la suite, et en fait c'est pas du tout la suite, quoi. C'est un peu le cas, je trouve, avec les films de DC. T'as des Superman, t'as des Batman, mais ça va pas être le même Batman et pas le même Superman.
Oui. Ça... Multivers.
Multivers pas assumé, quoi.
Passons au film de Guillermo del Toro, donc sorti sur Netflix en 2025, en fin 2025. Donc avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth et Christoph Waltz. My maker told his tale. And I will tell you mine. I remember pieces. Qu'en avez-vous pensé, très chers?
J'ai bien aimé. Du coup, je l'ai regardé deux fois, et la deuxième fois, j'ai encore plus apprécié, je pense. J'avais été surpris parce que je connaissais pas du tout l'origine vraiment de l'histoire de Frankenstein, à part l'image très cliché du monstre vert avec les écrous, tout ça. Et du coup, très surpris que ça commence en Antarctique, avec une expédition qui se retrouve bloquée dans la glace, qu'on ait d'abord le récit du docteur, qui est un peu classique, sur son enfance très gothique avec son père, qui le force à apprendre la médecine, tout ça, et puis après il
maman.
Va...
Maman.
Sa maman qui est morte, mais oui.
Maman. Faut
commencer par... Je suis là, maman.
Là, maman. Tu vas Timothée Chalamet en interview sur France Télé. Oui. Oh, bah, moi, j'adore le ping-pong, en fait.
C'est pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a un petit peu de français dans le texte, en VO.
Ah oui.
Entre Victor et sa mère au début.
Je comprenais pas.
Victor.
Victor,
je suis là, maman. Oui, donc on a toute la première partie sur la création du monstre, qui se fait en plusieurs étapes. Il y a une scène un peu gore, dégueulasse, mais un peu marrante aussi, où il va à l'université pour montrer son expérience. Au début, c'est juste une moitié de cadavre, où il y a un buste, un bras, une tête, et il arrive à le faire bouger, à attraper une balle, tout ça.
Mais c'est Jeff Panaclock, Frankenstein.
En fait, il y a sa main pleine de sang dans le film.
C'est du stand-up, en fait.
Il y a aussi tout un truc avec son petit frère. C'est un peu la seule famille qui lui reste. Il y avait une compétition quand il était jeune. Effectivement, il était un peu préféré, son petit frère, tout ça. Et là, à l'âge adulte, il est fiancé à une jeune femme qui s'appelle Elisabeth.
Ouais.
Mais Victor va commencer à être amoureux d'elle. Ce qui est problématique parce que c'est déjà... C'est la fiancée de son frère. Et en plus, c'est la même actrice qui joue sa mère. Awkward. Donc, ouais, il y a un petit complexe d'Oedipe.
Il y a des choses pas réglées là-dedans.
Il va arriver jusqu'au bout là pour son expérience. Il va être surpris mais quand même plutôt satisfait au départ de voir que ça a fonctionné. Mais très vite, en fait, en essayant d'apprendre des choses au monstre et puis en voyant qu'il est un peu concon, bah, il va perdre patience.
Il le catégorise comme stupide, limité, parce qu'il ne prend pas le temps aussi.
Du coup, il le maltraite, tout ça.
Il reproduit le schéma de son père, quoi.
Ouais.
Exactement. Mmh. Et au final, il est recruté par ce...
Ah oui, c'est R...
C'est le père d'Elisabeth.
Voilà,
qui devient son mécène. Son oncle, pardon. Ouais. Qui devient son mécène, ouais.
R. Heinrich.
Heinrich, merci. Qui a un peu un intérêt dans l'histoire.
Oui, il finance ses opérations pour essayer de combattre la mort, puisque lui-même, il est malade.
Moi, ce que je trouve très bien dans ce film, notamment, c'est à quel point on voit que Victor, c'est une pourriture, quoi. Il ment beaucoup. En fait, il a pas de scrupules. Enfin, il est amoureux de la fiancée de son frère. Bon, ça peut arriver, mais en fait, il a vraiment... aucune compassion pour son frère.
Ouais, c'est la rançon du succès.
Il n'y a aucun scrupule à aller la draguer.
C'est
quoi.
Ça. Et même par rapport à ses ambitions, on peut clairement dire qu'il a les dents qui arrivent le parquet, comme on peut dire.
Ouais.
Et je trouve que c'est l'une des versions où il est le plus antipathique, mais ça fait partie, je trouve, de l'histoire. Enfin, ça rend l'histoire plus intéressante. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé cool du tout.
T'as une scène qui est marrante où elle va au confessionnal et lui, il entre dans la partie pour le curé, il se fait passer pour le curé. Elle fait « Oui, j'ai péché... ça concerne le frère de mon fiancé. » Et lui, direct, il fait « Ah ouais, c'est péché de luxure. » Il fait « Non, c'est la haine. J'ai envie de le frapper. »
Mais elle sait que c'est lui, en fait.
Oui. Ouais. Et donc, tout se termine mal, puisque le laboratoire finit par prendre feu.
Ouais.
C'est lui qui le met en feu.
Il se rend compte qu'il est dangereux. Enfin,
il y a Christopher, le mécène.
Heinrich.
Celui qui a des semelles en or.
Il lui demande quoi ? Il veut utiliser son propre corps comme pour l'expérience, non ? C'est quoi le...
En fait, on comprend qu'il lui a donné tout cet argent pour combattre la mort parce que lui, il a une maladie, je sais plus.
Il a la syphilis. Du coup, il a des semelles en or, mais il a pas de capote.
J'ai mis tout mon budget là-dedans.
Et il s'engueule, quoi. Et forcément, alors ça, tu le vois arriver dès le début, c'est que dans le laboratoire, il y a un trou gigantesque au centre. Et donc, c'est boum, boum, badaboum, il tombe, quoi.
Et du coup, il fout le feu. Il se retrouve blessé dans l'explosion, il perd une jambe.
Ouais.
Et la créature est enchaînée dans les sous-sols, donc a priori, elle va mourir. Sauf que ce qu'on a vu au début du film, c'est que la créature n'était pas morte du tout et qu'elle le poursuivait jusqu'au milieu de l'Antarctique. Et donc la deuxième partie du film, ça va être la version du monstre.
Ouais.
Qui dit « Attendez, là, je vous entends parler depuis tout à l'heure, me casser les sucs sur le dos. »
Excusez-moi de vous interrompre.
Je vais quand même vous donner ma version. Et donc, on voit cette version-là, une fois que l'incendie a commencé, il a pu s'échapper dans les égouts. Il s'est retrouvé à la campagne. Et alors là, il y a une image, c'est une image qui n'avait pas fuité, mais qui avait servi de promo au film avant qu'il sorte. On voit le monstre en slip dans la nature, qui est vraiment tout blanc, gris, chauve, tout ça. Et en fait, les gens, ça les avait vachement surpris. Parce que c'est pas du tout l'image du monstre qu'on connaît, la version Boris Karloff, ça. Ça fait plus effectivement l'alien dans Prometheus.
Oui, les architectes.
Les architectes, ou même dans Dragon Ball, Freezer ou Cell, je sais plus.
Putain, mais c'est
avec
le
tous les
c'est
traits,
Freezer,
tout ça.
Ouais. C'est vrai qu'il est un peu moche, il est pas terrible le monstre, mais je me dis, est-ce que c'est pas aussi de le faire un peu
le patchwork.
Blanc? Ouais. Enfin, tout comme une feuille blanche, quoi.
Ouais.
Et que du coup, on puisse projeter.
Ouais.
Puis il veut passer un peu inaperçu, il essaie de se cacher.
Tout le monde voit que c'est un monstre, par contre, même quand il a une capuche. Alors que pourtant, il est très
humain. Mais j'avais un
grand mec de 2 mètres
et quelques.
Et du coup, on va suivre un peu son voyage initiatique, où il découvre la nature. Il va se réfugier du froid dans une grange.
Les scènes des animaux, pas ouf. Les images de 116. Ouais. Enfin,
dans l'ensemble du film, je trouvais que parfois, l'esthétique était très belle. Et il y avait des choses qui étaient très 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 mal faites, qui vont automatiquement mal vieillir dans un an, quoi. Enfin,
des fois ça faisait très lisse.
Ouais.
Est-ce que c'est pas fait exprès aussi, le côté artisanal, là c'est de la 3D, mais le côté un peu grand guignol, non pas grand guignol, mais
carton
grotesque.
C'est l'attaque des loups, moi, que je trouve très mauvaise, quoi, par exemple.
Les décors ont vraiment été fabriqués. Donc ça se voit que c'est du réel. Et en effet, quand t'as des loups qui arrivent, c'est un petit peu étrange.
Ils se réfugient dans une grange où il y a des gens qui habitent là-dedans.
Une petite famille. Un vieil aveugle.
Oui, avec un petit vieux aveugle. Voilà.
Ouais. Et ça, c'est dans le livre.
Oui.
J'imagine, vu que ça fait 3 ans.
Oui, et ils commencent à faire des dons, à les aider.
Alors, au début, ils les observent. Et oui, effectivement, ils commencent à...
à aider un petit peu,
réparer la barrière, oui, ramener une botte de foin.
Et eux ils sont là genre, oh, c'est l'esprit de la forêt qui nous a aidés.
Et là ils chantent, entends-tu le chant.
Jusqu'à ce que la famille, sauf le petit vieux, s'en aille pour quelques jours. Ils se sont dit, bah tiens, démerde-toi, on t'a laissé un petit mot.
Il y a la purée qui chauffe, hein, tu te...
Il va rentrer en contact avec ce vieil homme, qui n'est pas effrayé parce qu'il ne voit pas qu'il ressemble à un cadavre, tout ça. Petit à petit, il va un peu lui apprendre la vie,
à compter deux par deux.
À compter deux par deux.
À lasser ses chaussures.
C'est ça, il y a un petit clip show avec une musique derrière. Et jusqu'à un moment où il va repartir au labo... Je sais plus pourquoi, pour récupérer une photo, ou je ne sais plus.
Il trouve l'adresse, et c'est le seul papier qui n'a pas brûlé, c'est là où il y a l'adresse.
Ah oui, pour retrouver Victor. Il va retrouver son créateur. Et du coup, en retournant voir le petit vieux, il a vu qu'il y a une attaque de loups qui est en cours, donc il se bat contre les loups un petit peu. Et en fait, les villageois arrivent à ce moment-là, et pensent que c'est lui qui a tué le vieux.
Avec sa petite perruque là.
Avec sa petite perruque parce qu'il a les cheveux longs maintenant.
Avec sa grosse tête là. Ben oui.
Et du coup, il attaque, il commence à s'échapper, mais il lui tire dessus. Il tombe dans les pommes, mais vu qu'il est un peu immortel, il se réveille quelques heures plus tard et ils sont rentrés chez eux. Pourquoi ils n'ont pas cherché à
le laisser un peu pour mort à l'entrée du village, c'est pas non plus super.
C'est finir, ça. Quoi.
Franchement, niveau hygiène, c'est pas ouf.
Mais je comprends pas pourquoi ils veulent le tuer. Parce qu'ils voient aussi les loups. Mais en fait, eux, direct, ils ont envie de tuer la créature.
Ouais.
Alors que leur patriarche, il a l'air trop sympa, hyper ouvert et tout. C'est plutôt des hippies, quoi.
Ouais. Il est aveugle, et eux, ils sont méga vénères.
Ouais.
Ils arrivent juste après son dernier souffle. Donc en fait, ils se rendent pas compte que le vieux, il était genre « Merci, mon jeune !» Et là, tout de suite...
Il retrouve Victor, et il a une demande à lui faire. C'est qu'il veut qu'il lui fasse une fiancée, une compagne...
Parce que l'éternité tout seul, c'est long.
Sauf que Victor, il est un peu en mode « Non, tu me dégoûtes, j'ai pas envie de te voir. Je regrette de t'avoir fait tout ça. » Bagarre un petit peu, là.
Bagarre.
Elisabeth qui arrive. Elisabeth qui est sous le charme du monstre. Ils avaient eu le temps de se rencontrer avant, tout ça.
Parce qu'elle aime bien ce qu'elle
Elle est un peu passion cadavre. Hein.
Et Victor, Victor va vouloir tirer sur le monstre, mais sans faire exprès, il va toucher Elisabeth.
Oui.
Du coup, la grosse bagarre.
Ça peut arriver à tout le monde.
Et encore, on pense que le monstre. À chaque part où il passe, il y a des gens qui meurent.
Du coup, tout le monde arrive. Là, il y a le mari d'Elisabeth et compagnie.
Mais il ne le sait pas qu'il est immortel au bout d'un moment. Parce qu'en fait, ils essayent de le tuer pendant tout le film. Mais il est immortel.
T'es curieux, le petit. Hein.
Au début, il pouvait avoir le doute. Mais là, Du coup, il en dégage un peu quelques-uns. Il tue le frère de Frankenstein sans faire exprès. Oups. Et il repart avec Elisabeth. Elle a ses derniers souffles dans une caverne, tout ça. Et suite à ça, c'est le début de la traque entre Victor et le monstre, où on ne sait pas trop qui traque qui au départ.
J'ai rencontré le diable, là.
C'est ce que j'allais dire.
Parce qu'il lui casse la jambe, et puis après, il le laisse là, et puis après, il va le rechoper plus tard pour lui casser les doigts.
Il
le rechoppe.
C'est parce qu'il veut qu'il cède pour qu'il lui recrée une compagne.
Oui, s'il a plus de doigts, plus de jambes.
Ouais, c'est un peu de la torture à la fin.
Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis.
Jusqu'à ce que.
C'est le titre de la comédie avec Gérard Jugnot.
Victor lui fasse péter de la dynamite au milieu de la banquise. Mais ce qui ne suffit pas à le tuer, puisque là, on enchaîne sur le début du film où Victor se fait secourir par l'équipage du navire. Et voilà. Et donc, à la fin de tout ce récit, Victor, il dit bon, effectivement, maintenant que j'ai eu ton point de vue. J'ai ton point de vue, j'ai pas été super comme créateur, donc...
Parce que c'est le vieil ermite qui lui a un peu appris à parler, à lire, non ?
Ah oui, c'est ça, il lui a donné un peu son humanité.
Voilà.
Je cherchais une blague avec Thierry l'ermite, mais malheureusement, il n'a pas tant que ça. Oui, et du coup, Victor lui présente ses excuses pour tout ça. Il meurt en étant un peu...
En PLS.
Avec la créature en PLS. Et donc la créature s'en va face au soleil couchant.
Ah oui, il lui fait un Heisenberg à la fin. Say my name.
Say my name.
Victor.
Oui.
Ça m'a fait penser à la fin du Pinocchio aussi. Pinocchio qui est immortel aussi, qui s'en va un peu tout seul. Bref.
Mais il y a un truc du coup chez Del Toro dans ce cas-là. Mais de toute façon, il y a un truc sur les créateurs, les monstres.
La solitude.
J'ai trouvé
dans
très beau,
sa cinématographie.
Hellboy, il y avait déjà un peu de ça, parce que t'as le père, c'est un scientifique, lui c'est un monstre. La façon dont il arrive sur Terre, c'est un peu genre l'expérience avec des éclairs.
Je serais curieux de savoir l'histoire familiale de Del Toro.
Mais il y a aussi dans la forme de l'eau, il y a la question du monstre et de l'humanité et tout ça. Enfin, c'est un peu récurrent.
Et là, dans celui-ci, moi j'ai beaucoup aimé vraiment le message sur l'humanité et sur, sur la paternité. Et aussi sur l'éducation, parce que en fait au tout début il le traite vraiment comme un clébard, en fait il utilise même des termes de dressage, tout ça, alors que les autres personnes, notamment Elisabeth, dit c'est une personne, c'est pas une créature. Et en fait lui-même Victor dit mais il est dangereux, il est violent, et en fait il est violent parce que lui-même est violent avec lui. En fait, c'est vraiment, tu résultes de ton éducation. C'est quasiment de la philosophie sur l'existentialisme.
Oui, il y a tout ça. La figure de, c'était quoi, Méduse, Gorgone. On voit des Gorgones partout. Il y a des miroirs aussi. Il y a plein de scènes avec des miroirs. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est quand il lui apprend à parler et que le premier mot que la bête, que le monstre, il dit, c'est Victor. Du coup, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui qui s'appelle Victor ? Est-ce que c'est parce qu'on appelle le monstre Frankenstein alors que c'est pas son nom ? Donc j'étais parti un peu loin sur cette théorie. Que... Et il finit en disant Victor aussi, d'ailleurs. Donc qui est Victor ?
C'est intéressant parce que ça fait partie avec Zelda des deux œuvres culturelles où on ne sait pas qui est qui. Enfin, les gens savent, mais le grand public, non. Donc voilà, Zelda, ce n'est pas le bonhomme vert, c'est la princesse.
Dracula, c'est pas le vampire.
Cette impression de déjà-vu.
On se connaît ?
Ouais. On se connaît.
Il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la scène avec Christoph Waltz où il se retrouve dans son cabinet où ils font les photos, là. Et je trouve ça assez bien fait. Et il y avait un truc un peu de... Justement, un peu cabinet de curiosité ou invention du 19e. Je trouvais ça plutôt beau, en fait.
Je croyais que tu avais parlé de la scène où ils sont aux toilettes. Et qui fait, tu veux que je sorte ? Mais non, t'inquiète pas. Et il se met à pisser devant Victor. Mais comme un enfant de 6 ans qui lève son t-shirt. Comme ça.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment beau et poétique.
Bah, on voit qu'il respecte le truc Guillermo del Toro et qu'il est passionné par les monstres du cinéma et tout. Ouais. Et ça se voit qu'il fait ça pas dans le vent.
Ouais,
bah, oui. C'est un passionné de monstres, ouais. Il y a plusieurs moments où il fait des cauchemars où il y a des statues qui deviennent des sortes de démons assez stylisés avec des flammes de l'enfer.
Santa Muerte, là.
C'est ça. Et moi, ça me rappelle un vrai truc, c'est que chez mes grands-parents, qui étaient très croyants, quand on rentrait dans la cour, sur la gauche, il y avait une sorte de petit hôtel avec la Sainte Madone. Enfin, et en gros, ça faisait... Enfin, c'était flippant. Et moi, j'en ai fait des cauchemars de ce que je l'imaginais. Enfin, je l'imaginais en train de m'étrangler. Bon, bref, un peu comme les monstres dans Doctor Who, justement.
Les anges.
Les anges. Donc, quand j'ai vu ça dans le film, je me suis dit... Ah,
moi, j'ai des cauchemars sur les anges de la télé-réalité.
Qui sont beaucoup plus... dangereux.
Oui. Et du coup, je pense que Guillermo del Toro a eu une éducation plutôt catholique.
Oui.
on a plein de signes de ça dans sa dans ses filmos.
Il est mexicain.
Oui.
Je crois, oui, un pays très très.
Ouais.
Là aussi, il y a un peu de comme dans le labyrinthe de Pan, un fond historique aussi. Je sais pas si c'est dans le bouquin du coup. Vous demandez au référent livre. vu qu'il y a la guerre de Crimée, ça leur sert à récupérer des cadavres. Du coup, il y a vraiment un fond.
Ça doit être dans la page 11. Ça, j'y suis pas encore.
Page 11, c'est après.
Nathan, référent livre. Il y a juste deux bibliothécaires dans la pièce. Mais...
Et en tout cas, la créature a un peu une image christique parfois. On a l'impression que c'est justement le premier homme. Enfin, on dirait qu'il a créé Adam. On peut aller un petit peu loin là-dessus, je trouve. Et puis, il y a le cercueil tout blanc, les vitraux qu'on voit dans les décors.
Ils sont trop beaux, les cercueils, là.
C'est très, très beau. Il y a beaucoup de blanc dans le décor, et notamment l'espèce de trou qu'il y a dans le laboratoire,
Mais blanc, mais pas forcément immaculé. Enfin, il y a un côté un peu comme du marbre, un peu étrange.
Dans les deux versions que j'ai vues, un truc qui revient, qui est un peu qui fait pas sens, c'est que l'idée de base, c'est qu'il veut faire une expérience pour pouvoir combattre la mort, qu'on n'ait plus besoin de mourir, etc. C'est comme ça qu'il vend le truc à l'université. Alors qu'en fait, non, il n'empêche pas les gens de mourir, juste il crée un.
Oui, bah c'est un, là, c'est un menteur.
À partir de... ouais.
Mais bah, il a un complexe de dieu, quoi, en fait. Il, c'est vraiment tout le truc.
Beaucoup de complexes. Hein. Oui. De dieu, de deep.
Oui, 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 il y a aussi ça.
Bah, du coup, dans la version où c'est James McAvoy, t'as aussi de ça.
Ouais.
Et je pense que c'était aussi l'époque 2014-2015, où pour montrer qu'il est intelligent, fallait qu'il soit un peu cynique, satirique, en mode Dr. House.
C'est fou comment il y a des trucs qui vieillissent mal. Corporate needs you to find the differences between this picture
and this picture. They're the same picture. Je vous propose de passer à la dernière étape de cet épisode. Lequel est le meilleur? On n'a pas tous vu les mêmes. Mais je vous propose qu'on dise un petit peu nos avis respectifs. Commençons par notre invité, Tom.
En fait, la chose que j'ai pensé en regardant celui de Guillermo del Toro, c'est qu'il n'était pas nécessaire. Et je trouvais qu'il servait à rien. Après, il est très beau et quand même cool, mais en fait, on l'a déjà raconté mille fois cette histoire, et ça apporte rien de plus du tout. Alors que The Vindicator, il y a quand même cette scène où le gars il parle dans le synthé.
Voilà, et ça, bon, après, ça
c'est un petit film, galère, un peu de série, je dirais série C, quoi. C'est entre le B et le Z, mais qui fait plaisir. Après, voilà, il était cool. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il se prend pas tant au sérieux que ça, finalement. Contrairement à Nosferatu, par exemple, le dernier, qui est aussi un truc gothique, mais qui est un peu trop sérieux. Là, il y a le côté grandiloquent qui est cool. Mais voilà, encore un film sur Frankenstein qui apporte pas grand chose. Donc. The Vindicator, aka Roboman, aka Frankenstein 88.
Très bien.
Et il est sur YouTube.
Maxime.
Bah moi, la version 2025 de Del Toro, j'ai pas mal bien aimé. En effet, c'est peut-être un film qu'on a, enfin une histoire qu'on a beaucoup vue, mais au final, peut-être le défaut, c'est qu'on arrive un petit peu à se perdre pour savoir quelle est la vraie histoire originale. On en a parlé un petit peu pendant là toute cette émission. On ne sait plus quel truc vient de l'original. Ça devient un petit peu, c'est un objet culturel mélangé. Et j'ai bien aimé le fait de prendre le temps quand même d'avoir une vraie relation et des vraies questions. Philosophique sur la création, sur le point de vue aussi, on l'a dit, ça change à la moitié, on voit le point de vue du monstre, ça lui donne une humanité qu'on n'avait pas dans les œuvres précédentes. Donc ouais, j'ai pas mal aimé, alors que je ne peux pas blairer Jacob Elordi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais voilà.
Aussi sexy soit-il.
Bah oui, mais c'est ça le problème, quoi. Enfin, c'est le Sidney Sweeney.
Okay, il est juste grand, excusez-moi.
Et okay, puis je suis pas jaloux, hein.
Il est grand, ok. Melissa veut que je fasse le mulet comme lui, mais j'ai pas envie, quoi.
Non, le mulet, c'est nous, on a dit.
Je trouve que c'est un. J'ai l'impression que je vais parler de ça. Ouais, c'est un top model, c'est pas un acteur. Et au final, non, il est très bien dans ce rôle. Donc peut-être que je suis un petit peu jaloux. Il va rentrer comme Romain Duris dans la case de les mecs que j'aimais pas avant. Et que, bah, en fait, c'est vrai qu'il joue bien, quoi.
Tu nous feras un top un jour de ça.
Bah, Romain Duris et Jacob Elordi.
Il y a un top 2, en fait.
Et donc, voilà.
Eddie Mitchell.
Eddie Mitchell, top 3. Nathan.
Ouais, moi je suis plutôt sur celui de Guillermo del Toro quand même. Il y a de bonnes idées niveau ambiance, niveau visuel, même si des fois il y a une patte un peu trop CGI ou trop lisse. Mais ouais, le film prend son temps. Il est peut-être un peu long par moment, mais par rapport à d'autres versions où t'as l'impression que ça va très vite, qu'il manque des scènes, tout ça, là c'était assez complet, c'était cool. L'autre version, elle se laisse regarder quand même, mais pas été hyper fan, quoi.
Bah, surtout que dans le Del Toro, il n'y a pas de bouton d'acné, quoi.
Non, ni de karaté.
Ça, c'est raté, du coup.
Ni Daniel Radcliffe.
Ouais.
Ouais. D'ailleurs, c'était marrant parce que je l'ai vu en VF. Et pour Daniel Radcliffe, ils lui ont mis la voix française de Tom Holland.
De Stallone. pardon.
Non, Tom Holland, qui commençait à peine à faire Spider-Man, tout ça. Et du coup, il a une voix hyper fluette. On fait malheur, monsieur Frankenstein.
Du coup, là, une voix avant la bosse et une voix après la bosse ou...
C'est ça.
C'est les hormones qui ont changé sa voix.
On les mal. C'est Patrick Timsit après.
Oui, je vais donner mon vote pour Guillermo. Pareil, je n'ai pas été transcendée, mais je n'ai pas mis en accéléré, ce qui est toujours un bon signe.
Pas mal.
Et puis, je n'ai pas rigolé sur Mel Brooks, je suis désolée.
Désolé, Mel.
Ton diplôme d'humour va être évoqué.
Tout simplement. Voilà, y a... juste les loups n'étaient pas hyper bien faits. Ça m'a vraiment gêné, je le redis.
Ah, là.
Je trouve que les animaux, c'est vraiment voilà, c'est important. C'est un manque de respect, je trouve.
Ils auraient pu embaucher des acteurs loups, quoi.
Ouais. Exactement.
Mais des vrais loups, il y a des forums avec des gens qui sont.
Il y a des familles à nourrir. Il y a tout un business derrière tout ça. Non, mais voilà, Guillermo, ça se regarde. Un peu long. Mm. Mais pas désagréable.
Mais ça en plusieurs parties, vu que c'est déjà découpé.
Exactement, ouais.
C'est bien fait.
c'est bien fait.
Et toi, Géraldine ?
Et moi, je pense que je choisirais Eddie Mitchell. Non, je rigole. Je vais choisir plutôt la première version, celle de 1931, en fait. Parce que